Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, l'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un patient guetteur des sous-bois se joint à nous. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Alexis, je vis dans le nord de la France, j'ai 21 ans, je me passionne pour tout ce qui est l'environnement, je fais beaucoup d'activités en rapport avec ça, principalement de la chasse, de la pêche et beaucoup de choses dans la nature, comme la cueillette par exemple, tout ce qui est champignons. Ben, tout ce que je chasse, c'est de la consommation directe, je la transforme sous différents types et j'en profite au cours d'un repas ou d'un apéro entre amis. Ça peut être transformé donc en saucisson, par exemple, pour la viande de gibier, en steak haché. Ça peut être en fumée, donc des morceaux de viande fumée. Sinon, ça peut être sous forme de pâté, par exemple. Il y a un peu tous les choix en recette. J'ai orienté tout ce qui est études, donc à ce niveau-là. Donc j'ai commencé par un BTS GPL. BTS Gestion Protection de la Nature, une licence pro à l'Université d'Artois pour m'orienter par la suite donc sur un CS cinégétique qui permet d'apprendre toute la gestion autour du monde de la chasse principalement et des écologies de l'espèce. À partir de là, donc, même mon parcours professionnel dans l'environnement au sein du Conservatoire des Espaces Naturels. Donc ça va être principalement pour tout ce qui est gestion des milieux naturels sur le secteur de l'Aisne avec des tourbières, des marais, des landes, des coteaux. Donc dans toutes ces passions, ça me rapproche énormément de la nature et pour moi c'est important de pouvoir se reconnecter à un monde un peu différent de ce qu'on connaît actuellement. Et pas forcément un monde qui intéresse ou qui plaît à tout le monde. Et le fait de se reconnecter un peu avec la nature, tous ces éléments-là permettent d'avoir un bien-être au quotidien qui est important.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Pour le goût, donc moi ça me rapprocherait plus d'un goût de liberté, avec l'ensemble des choses que l'on peut faire sans être voilà, jugé, impacté ou autre. Pour une odeur, donc une odeur de fraîcheur, voilà, l'odeur des feuilles, l'odeur de l'environnement dans lequel on se trouve. Pour une couleur, la couleur ça serait le bleu pour le bleu du ciel. Donc qui rapproche aussi avec le goût donc de la liberté, le bleu. Et une texture, donc ça serait la texture de la terre, parce que c'est principalement elle qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Et le son, donc le son des oiseaux, qui pour moi est un antidépresseur incroyable par rapport à tout ce qu'on peut entendre partout autour de nous. Pour moi, les trois mots que je pourrais importer à cela, donc ça serait liberté, grandeur et opportunité. Pour moi, la liberté, ça serait penser, pouvoir faire ce qu'on veut, être en corrélation avec soi. Et donc, pour expliquer donc, la liberté, donc ça serait la liberté de penser et de faire un peu ce que l'on veut. La grandeur, donc c'est tout ce qui nous entoure. Les arbres, les montagnes, etc. La beauté de ces formes qui nous entourent. Et les opportunités, pour moi, ce serait ce que la nature permet de faire et qui sont un multiple choix pour toutes les pensées, etc.
Elle a ce tout petit supplément.
Dis-nous, comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
J'essaie de la mettre un peu au centre de ce que je réalise. Donc c'est pour ça aussi que j'ai orienté tout ce qui est études et projets de vie autour de l'environnement, pour me permettre de la faire peut-être évoluer un maximum vers le bon côté, même si on sait que c'est pas évident, ce qui permettrait de garder tout ce qu'on connaît actuellement, tout ce qui nous entoure, et de le préserver un maximum avant de potentiellement le détruire au fur et à mesure de notre existence. Un projet de vie donc, qui moi se rapproche donc de toute cette nature, ça serait de partir et d'aller vivre principalement dans les pays type le Québec, le Canada, qui sont encore des espaces très conservés de l'homme, même si des espaces sont atteints, mais il y a encore une grande ouverture pour la nature et d'énormes possibilités pour pouvoir s'y connecter. Par rapport à mes passions, donc comme la chasse, la pêche, donc c'est vraiment des moments où je me reconnecte complètement. Donc c'est un peu un autre style de vie où on est complètement dans l'environnement, on est entouré de cette vie. On dépend aussi beaucoup de cette nature qui évolue et donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Le fait de pouvoir, en fonction des saisons, des odeurs qu'on peut retrouver, pouvoir complètement changer d'atmosphère par rapport à la vie de tous les jours. Et donc c'est ça qui m'anime aussi dans le fait de continuer, on va dire, ce mode de vie. Donc il y a des moments voilà où parfois ça va pas forcément bien dans la vie, et donc le fait de se lever le matin en disant que on va voilà aller pêcher ou aller chasser, le fait de se retrouver avec soi-même et faire ce qui nous plaît, ça on va dire que ça redonne l'envie de se rapprocher de cette nature qui nous entoure. Il y a environ 2 semaines, donc j'étais en Haute-Savoie sur un matin, donc je m'étais levé à cette bonne heure et j'avais envie de faire une petite sortie à champignons là, pour pouvoir me détendre. Et sur le bord d'un sentier, j'ai croisé donc un chamois et qui se reposait. Et ben, il était posé sur sa pierre comme ça au soleil de beau matin, et c'était vachement beau. Donc là, les chamois, ils sont en pleine couleur donc de saison, donc il était tout marron. Et c'est quand même une espèce qui est assez créative de l'homme. Le fait de pouvoir l'avoir à cette distance, donc il y en a à peu près 20 mètres, c'est même très rare parce que le chamois est très très discret. Et donc c'est ce moment d'inattention qui m'a permis de le voir. C'était un peu le fait d'être aussi surpris que lui, parce que lui m'avait pas entendu arriver, et le fait de un peu croiser nos regards et de se dire mince, on s'est pas vu, on s'est pas entendu arriver, et ça a fait un peu l'émotion de on n'est pas tout seul et on peut parfois passer à côté de certaines choses sans forcément s'en rendre compte.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant?
Pour moi, l'humain peut apporter une façon différente de voir la nature qui nous entoure. Pour moi, l'homme peut aussi apporter énormément de mauvaises choses. La nature est sans cesse en train de devoir évoluer pour pouvoir s'adapter à nous, même si au fond, la nature sera toujours plus forte. L'humain la pousse à se retrancher un peu sur elle-même, en la reculant, la défrichant, etc. Ça, d'évoluer, nous, humains, développe la nature d'une façon assez cadrée. Là, pour moi, l'humain est capable de s'adapter. Le seul problème, c'est que l'humain grandit trop vite et très, très fort par rapport au temps d'adaptation de la nature. Et que le seul problème, c'est que le fait d'aller trop vite, la nature, du coup, n'a pas le temps de réagir et n'a pas le temps de pouvoir s'adapter à nous. Pour moi, notre évolution est loin d'être terminée avec ce qu'on peut voir actuellement, les générations, par exemple, précédentes, qui ont déjà quarantaine, 100 ans d'existence, on va dire même 50, ont adopté un mode de vie qui est totalement différent. Par exemple, mes grands-parents se nourrissaient principalement de l'élevage, de la cueillette, du potager. Et maintenant, on va au supermarché qui est à côté de chez nous, on fait nos courses. Plus ce côté, en fait, liaison avec la nature, pour moi, manquait énormément. Pour moi, l'évolution de l'humain essaye déjà un maximum de se reconnecter à cette nature qui nous entoure et surtout de se reconnecter à l'essentiel, même que c'est qui pour moi est la nourriture, par exemple. Des modes de vie qui permettent de pêcher, de chasser, de faire de la cueillette, de créer un potager et de vivre de ça plutôt que de se joindre tous les samedis matin ou après-midi au supermarché pour remplir son caddie de course. On devrait un peu retourner en arrière, surtout par rapport à notre évolution, et éviter certaines choses qui rendent les ados ou même adultes parfois bêtes et renfermés sur eux et sur console, téléphone, etc. C'est peut-être ça qui manque aussi à la génération actuelle, le fait de se reconnecter à tout ce mode de vie un peu ancien.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur l'interprétation de l'article 14 de la directive Habitat par la Cour de justice européenne. Pour rappel, l'article 14 de la directive concerne les espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Ainsi, le but des mesures de gestion d'une espèce est de maintenir ou de rétablir l'espèce concernée dans un état de conservation favorable. Lorsque ces mesures incluent des règles relatives à la chasse, elles sont de nature à restreindre et non à étendre le prélèvement des espèces concernées. La chasse peut donc même être interdite si nécessaire. Et si une décision administrative l'autorise, elle doit être justifiée et fondée sur les données de surveillance de l'état de conservation de l'espèce, en particulier lorsque celle-ci est d'intérêt communautaire. C'est ce dont n'a pas tenu compte la communauté autonome de Castille et León, qui a servi d'exemple dans l'épisode Feuille de Chou. En effet, cette communauté a adopté un plan d'exploitation du loup permettant de le chasser sans tenir compte d'un rapport adressé à l'Espagne par la Commission européenne et qui indiquait que le canidé, notre loup, se trouvait dans un état de conservation défavorable dans le pays. Pour la première fois, la Cour de justice de l'Union européenne a explicitement appliqué le principe de précaution dans le domaine de la protection des espèces et a surtout rappelé que toute décision se devait d'être éclairée par des données de suivi naturaliste, pour être certain que l'espèce en question pouvait supporter des prélèvements, langage politiquement correct pour abattage. En France, les règles de tir létal sur les loups viennent d'être assouplies. En effet, le nouveau plan loup s'applique depuis le 20 février et s'inscrit dans un contexte de crise agricole. Alors que les syndicats d'éleveurs dénoncent les attaques répétées des loups sur leur bétail, les associations de défense des animaux appellent à nuancer. Rappelons ainsi qu'en 2024, pour la première fois depuis le retour naturel du loup en France dans les années 90, tous les clignotants passent au rouge. Le loup régresse. Dans cet épisode, je posais alors la question de la solution de traquer et réduire les individus de loups dans le contexte de protection des troupeaux. Est-elle la seule solution possible ? L'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, visant à accompagner financièrement les éleveurs détenteurs de troupeaux d'ovins et de caprins, soumis à un risque de prédation, peut-elle être décemment appliquée ? Comme tout dispositif, les failles de ce dernier alimentent des doutes, car en définitive, le loup est une espèce qui se disperse et cherche à s'adapter à nos modes de vie. Or, les connaissances de ce dernier sont, sur bon nombre de territoires, sont encore insuffisantes pour déclencher ce dispositif de manière juste et équitable. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Ah, c'est vraiment un sujet compliqué parce que c'est vrai que moi, pour le coup, le loup, je m'y intéresse un peu quand même, mais c'est vraiment un sujet qui fâche parce que Il y a les côtés, on va dire, trop loups, et d'un autre côté, les personnes qui n'en veulent pas du tout. Et après, il y a le côté de celui qui comprend qu'il est intéressant, mais qu'il faut un peu faire attention à son évolution. Le loup a une évolution qui est actuellement en France très, très grande par rapport aux populations qui ont pu être connues depuis sa réintroduction et sa venue en France. Le loup, c'est une espèce qui est quand même très, très, très furtive. Malheureusement, pour réaliser des suivis sur ces populations, c'est une espèce qui donne pas mal de fil à retordre aux scientifiques, etc. Parce que c'est pas l'espèce la plus simple à capturer, à visualiser. Donc, comme on peut difficilement, même voire impossible, avoir des comptages assez exhaustifs des populations, et de leur endroit de vie, comme voilà, le loup se disperse aussi énormément, surtout les jeunes en dispersion. Ça rend un sujet très compliqué, et voilà, on peut aussi par derrière comprendre que ce loup, voilà, forcément doit se nourrir, donc doit chasser, il doit choisir des proies qui pour lui demande, on va dire, une facilité à être capturé. Donc forcément, c'est là qu'on intervient auprès des éleveurs, parce que donc le loup a une facilité forcément à s'attaquer donc au bétail. Donc des moyens de protection sont mis en place, donc les patous par exemple pour les montagnes, des clôtures électriques, etc. Mais ça reste des moyens de dissuasion auxquels le loup, c'est-à-dire, s'acclimate quand même assez rapidement. Et arrive à déjouer malheureusement ses failles. Dans l'évolution, et étant donné qu'on n'a jamais eu, on n'a pas eu depuis très longtemps affaire à cet individu, il va falloir reprendre, on va dire, depuis zéro la façon de connaître cet individu, la façon de se protéger contre lui, et surtout nos agriculteurs doivent apprendre à comment protéger leur bétail. C'est quand même la meilleure façon de gérer les pelouses alpines. Donc, sinon, ça resterait assez compliqué de gérer ces magnifiques milieux qui se développent en altitude. Là, pour moi, il faudrait pouvoir cohabiter avec donc cet individu, mais aussi pouvoir, quand il y en a besoin, voilà, c'est pas non plus en abuser, mais quand il y en a besoin, quand des loups, voilà, sont beaucoup trop curieux et s'approchent, peuvent être potentiellement dangereux pour l'humain, voilà, pouvoir donc avoir des genres de dérogations auprès de, par exemple, des lieutenants de l'électrique qui sont invités à réaliser ce genre de processus, c'est des choses à mettre en place pour pouvoir connaître donc aussi l'espèce, pour pouvoir informer le public, parce que le public n'étant pas informé au maximum sur l'évolution de ses populations, sur comment se développe cette espèce en France. Et c'est encore pour moi une espèce qui est, pour, je pense, beaucoup de monde, une espèce un peu digne des contes, où c'est le vilain méchant loup, etc. Et donc c'est une espèce qui fait peur, surtout. Et donc pour moi, ça serait apprendre à vivre avec, mais et parfois pouvoir aussi, en fonction de son développement, pouvoir potentiellement aussi la gérer.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Pour les rendez-vous, je vous enverrai directement dans l'ensemble ici des réserves naturelles, observatoires, qui réalisent tous les week-ends des animations, des sorties nature, pour pouvoir découvrir cette nature qui nous entoure et apprendre à la connaître. Je vous enverrai aussi vers le photographe Vincent Meunier, qui est un grand photographe, qui a réalisé donc un reportage sur les loups blancs, les loups arctiques.
Mon lumière, mon oreille,
fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité.
Zéro, attraper le Bluetooth.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Voici que cet épisode à cheval entre observation minutieuse et découverte d'un curieux gourmand prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.